le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Alors, Félix, écoute, avant de parler de la loi 101, je veux te parler d'un truc sur à la page 20 du Journal de Montréal. Tu sais, le procès de Vincent Boucher.
Oui.
Tu sais ça, bien sûr, là,
ben
qui
oui,
est accusé
sûr.
D'avoir tué son ex-conjointe. Et là, la stratégie de ses avocates, c'est qu'il était intoxiqué.
Exact.
Mais je
exact.
M'excuse, mais ce n'est plus recevable maintenant, ça. Tu peux plus dire ça, j'ai tué quelqu'un parce que j'étais sous, j'étais intoxiqué.
Ah, bien sûr.
Tu peux plus plaider ça.
Ben oui, tu peux plaider la défense que tu veux. Je veux dire, comme que c'est un peu une défense qui est similaire, d'ailleurs, à la défense de Guy Turcotte, là, qui est une dissociation de la réalité après avoir été d'abord intoxiqué à l'alcool, puis après avoir été aux prises avec une maladie mentale découlant de sa séparation. Tu peux dire que tu étais chaud raide aussi, puis que tu savais pas ce que tu faisais. Tu sais,
écoute, je suis pas sûr que ça va être recevable par les juges, par contre. Écoute, j'étais chaud, là, ce n'est pas une excuse.
Non, ce n'est pas une excuse, mais je veux juste te dire, Richard, que dans les années 20, à Montréal, puis au Canada, puis ailleurs dans le monde, les défenses d'intoxication passaient beaucoup mieux. Je me rappelle, moi, avoir, parce que j'ai plusieurs livres sur les grands procès du Québec, là, je me rappelle de quelques-uns d'entre eux, je peux pas te les citer malheureusement comme ça de mémoire, là, faudrait que j'aille dans ma bibliothèque, puis là, ben, ça, je manquerais un bout de ma chronique, mais, mais des défenses d'intoxication, ça passait un peu comme du petit lait, comme du beurre d'empoisson,
ben, oui.
Si tu veux, mais c'est, t'as raison que c'est moins de cas.
C'est une autre époque. Je sais pas, toi qui aimes les mini-séries, je sais pas si t'as vu Tiger King à Netflix, mais les gens qui ont des animaux exotiques, actuellement, au moment où on se parle, à Houston, il y a un tigre en liberté dans les rues. C'est un gars de 26 ans chez lui. Au lieu d'avoir un chat ou un chien, il y avait un tigre. Le gars est en liberté conditionnelle, okay, il est impliqué dans une affaire de meurtre, et chez lui, le gars, il y avait un tigre, puis il l'a perdu. Là, on cherche le tigre partout.
Pourrait le faire garder les postes d'essence aux États-Unis, le tigre, puis les protéger parce que là, ils sont envahis, comprends-tu, surtout au Texas, par beaucoup de gens qui ont peur de manquer justement d'essence en raison de l'attaque sur le pipeline, sur la compagnie.
Écoute donc un grand test ce matin à 10h.
Ben oui, moi ce qui m'intéresse dans ce test-là, ça va être le test des tribunaux parce que à chaque loi, sa contestation, ou presque, j'exagère à peine, hein, parce que c'est un projet de loi là qui sera déposé à terme pour modifier la loi 101. Alors ça fera l'objet, si tout ça passe comme prévu, d'une loi. Puis une loi, ben on peut la contester. Et il y a des arbitrages qui peuvent se faire devant les tribunaux. J'ai bien hâte de voir qui va se pointer de bout du nez pour la contester. Puisque le projet sera costaud, plus probablement il va froisser des minorités. Et je retourne à voir à la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, qui s'appelle la CEFAN, qui a été fondée en 1985, qui a beaucoup documenté les droits linguistiques aussi de la minorité anglophone au Québec. Et il nous ramène à une histoire assez intéressante. On sait que c'est le Parti québécois qui est arrivé au pouvoir en 1976, puis qui a fait en 1977, année de ma naissance, voter cette charte de la langue française qui est connue sous le nom de la loi 101. Là, on se reporte à ce qui se disait à l'époque, là, et c'est vrai qu'il y a plusieurs anglophones qui ont quitté le Québec à cette époque-là, plutôt que d'accepter leur nouveau statut de minoritaire. C'est vrai, ça, c'est documenté. D'ailleurs, il y a des chiffres là qui existent. Je pourrais mettre sur mon compte Twitter, si vous voulez, la source de ça. Là, il y a un long tableau dont je vous ferai grâce, là, mais c'est vrai qu'il y a eu un exode des gens, et aussi beaucoup de gens qui partaient de la région de Montréal. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ils nous disent que finalement, malgré cet exode-là, ça a toujours été la loi 101, un problème de perception chez cette minorité anglophone du Québec. Et les stratégies des leaders anglophones, et là je cite le rapport, là, il dit bien que les anglophones du Québec demeurent les mieux nantis de toutes les minorités officielles au Canada. Il est évident que l'évolution politique, linguistique, sociale et démographique des dernières années a profondément modifié le caractère de cette communauté. Donc, j'ai hâte de voir si on ne va pas assister à une résurgence, si tu veux, d'un mouvement fait sous le modèle d'Alliance Québec. Exemple, tu te rappelles de Brent Tyler d'Alliance Québec. Bon, mais tu sais, les contestations à la loi 101 qui a perdu son lustre au cours des dernières années puis qui a été morcelée, elles ne se sont pas arrêtées quelques années après son adoption en 1977. En 2005, Brent Tyler s'adressait encore à la Cour suprême, Richard, pour faire invalider plusieurs portions de cette loi-là.
Mais t'as raison de parler de ça, tout à fait, parce que, écoute, tout comme il y a des gens qui n'acceptent pas la loi 21 en disant « Vous nous imposez vos valeurs de laïcité que nous ne reconnaissons pas, c'est pas nos valeurs, vous les imposez. » La même chose avec la loi 101, vous nous imposez votre langue, la langue de la majorité, donc vous niez les droits des minorités au Québec, c'est certain qu'il va y avoir des contestations judiciaires. Tu as tout à fait raison.
Ben exactement. Alors, j'ai hâte de voir qui va se pointer le bout du nez avec ça. Là, j'ai bien l'impression que c'est drôle. Là, je veux pas jouer là, au gérant d'estrade, là, mais normalement, il y a quelqu'un qui a un groupe qui va sûrement s'organiser pour... Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, plus le projet promet quand même d'être assez costaud.
Oui,
là.
Hein?
Alors, plus il sera costaud, moi, je pense que plus la contestation chez la minorité anglophone va surgir. Puis, je trouve que c'est un équilibre, une posture difficile aussi pour le gouvernement de François Legault, parce que écoute, quand tu regardes ses derniers taux d'approbation à ce gouvernement-là, il fait aussi avec cette minorité anglophone qui traditionnellement allait au Parti libéral du Québec. Il amasse des votes aussi probablement de ce côté-là. Alors j'ai hâte de voir comment il va se dépatouiller dans tout ça. Simon Jolin Barrette ce matin.
Et le Parti libéral, j'ai hâte de voir comment ils vont se dépatouiller, le Parti libéral du Québec, parce qu'ils veulent courtiser les francophones. Donc s'ils critiquent trop la réforme de la loi 101, ils risquent de perdre des francophones. Mais s'ils la critiquent pas suffisamment, ils risquent de perdre des anglophones. Eux autres sont vraiment pris entre l'arbre et l'Écosse, comme disait Jean Perron.
Oui, puis parlant d'Écosse, parlons aussi d'allophones. Juste à dire, une statistique très, très intéressante sur la peur qui semble être rationnelle là, que plusieurs d'entre nous avons, que le français, évidemment, perde en force et soit finalement la langue de la minorité très bientôt. Dans une étude qui a été remise à l'Office du Québécois de la langue française de Charles Castonguay. C'est intéressant parce que je l'ai donné sur 20 ans. Mais là, on recule loin en arrière, là, de 71 à 2001, le pouvoir d'attraction de l'anglais sur les allophones a été deux fois plus élevé que celui du français. Alors, tu sais, c'est là que je pense que tout est en cause. Et là, on est 20 ans plus tard, après la fin de la période documentée par cette étude-là. Et ce qu'on voit au centre-ville de Montréal ou ailleurs nous fait penser que c'est loin de s'être amélioré tout ça, non?
Non, ça s'améliore pas, absolument pas à Montréal. Donc, très hâte de voir ça. Écoute, tu veux nous parler aussi du conflit du sofa.
Oui.
C'est quoi ça?
Non, mais c'est un problème de dumping qui est assez important, là. Écoute, puis j'ai trouvé intéressant le texte de Martin Jolicoeur dans notre journal, là, et sa manchette aussi. Ottawa s'attaque au sofa chinois. Parce que, oui, les détaillants de meubles du Québec, puis comme ceux du reste du Canada, là, sont vraiment frappés par un choc tarifaire énorme et les clients vont l'être aussi, c'est une question de temps, il semble, selon Jolicoeur, c'est parce que depuis une semaine, Ottawa vient déposer des nouveaux tarifs sur les meubles, les sièges rembourrés, donc rembourrés, fauteuils, sofas, chaises, fabriqués par des entreprises chinoises qui sont soupçonnées de pratiques commerciales déloyales. Donc, du dumping, là, on sait ce que c'est que le dumping, on vend à perte souvent, puis là pour inonder un marché, puis pour s'accaparer de parts de marché, c'est pas légal de faire ça. Okay, alors ben oui. les nouveaux tarifs là vont faire augmenter les prix de ces meubles chinois de 40 entre 40 et 295%.
Aïe aïe.
C'est énorme.
295%. Tu sais, à chaque fois qu'on parle ces temps-ci d'entreprises chinoises, on parle beaucoup d'espionnage. D'ailleurs, je vais parler de Huawei un peu plus tard. Il y avait un documentaire là, sur Club Illico. Mais tu sais, on parle toujours d'espionnage. Et quand j'ai vu ça, les sofas chinois, j'ai dit, coudonc, c'est-tu les sofas équipés de micros à l'intérieur et tout ça qui peuvent écouter la conversation des gens qui sont assis dessus? Non, non, c'est pas ça. C'est une histoire de dumping.
Oui, oui. C'est une histoire de dumping. Il y a 3000 détaillants. Écoute, il y a 3000 détaillants de meubles en Chine. Bien évidemment, les nôtres, les meubles que l'on fabrique ici.
Ah, on a perdu Félix. On a perdu Félix. Alors, un peu plus tard, bonjour. C'est ça, nous allons parler. Écoute, on va parler avec un de tes confrères, Marc-André Sabourin, qui est journaliste au bureau d'enquête et qui a fait justement ce documentaire sur Huawei. Et j'ai très hâte de voir ça. Et c'est très le fun, les documentaires que vous faites au bureau d'enquête, là, vraiment, Félix.
Ben, nous aussi, on aime bien ça, Richard Van Fer, pour vous, non, on a hâte de vous le présenter.
Très content, très hâte de voir ça. Donc, Félix Séguin du Bureau d'enquête du Journal de Montréal et du Journal de Québec.